En ce dimanche de l'Épiphanie, comme vous le savez, premier dimanche de l'année 2020, lisons, si vous le voulez bien, le récit des mages, ces deux circonstances, dans Matthieu 2. Nous allons lire tout le chapitre. D'habitude, on s'arrête au verset 12, mais je propose de lire tout le chapitre. Jésus, étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant entendu, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Et ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Ayant entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Voyant l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout le territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère » et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère, et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant entendu qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplît ce qui avait été dit par les prophètes, il sera appelé Nazoréen. Parole du Seigneur. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous avoir donné ta parole. Qu'elle nous instruise maintenant, ouvre nos oreilles et ouvre nos cœurs, et que nous puissions être guidés par toi, comme ces mages ont été guidés par l'étoile. Amen. Je pense que vous serez d'accord avec moi, ce récit des mages force l'admiration. Comment des gens comme eux, c'est-à-dire instruits et étrangers, ont-ils pu être bouleversés par la naissance du roi des Juifs? Que s'est-il donc passé pour que ces mages entreprennent ce si long voyage pour se prosterner devant le roi d'une nation étrangère? En fait, tout commence quand ils voient dans le ciel d'Orient une étoile qu'ils n'avaient encore jamais vue. Qu'est-ce donc que cette étoile? Restons-y un petit instant. La spécialité des mages, vous le savez, c'est le ciel. Ils connaissent le ciel par cœur. Constellations, planètes, étoiles remarquables. Et une nuit, alors qu'ils observaient le ciel comme d'habitude, ils voient une étoile nouvelle dans ce ciel qu'ils connaissent si bien. Cette nuit-là, de la nouveauté fait irruption dans leur ciel connu. Je dis de la nouveauté, car manifestement, pour les mages, cette étoile nouvelle n'est pas une étoile inconnue. Ils savent que cette étoile est celle du roi des Juifs qui vient de naître. On sait qu'ils le savent, car une fois arrivés à Jérusalem, ils demandent, hein, vous l'avez entendu, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alors, ne me demandez pas comment ils le savent, mais ils le savent. L'étoile fait donc nouveauté dans un espace connu. Mais elle fait aussi nouveauté dans un espace réputé immuable, le ciel. Pour les mages et pour nous, le ciel ne change pas. Cette étoile nouvelle dans leur ciel leur montre le contraire. Cette étoile leur montre que la naissance du roi des Juifs change le ciel, ouvre le ciel. Comme je l'ai dit, les mages sont des spécialistes du ciel. Ils sont si familiers avec le ciel qu'on pourrait presque dire que le ciel, c'est une partie d'eux-mêmes. L'apparition de cette étoile nouvelle dans leur ciel leur révèle que le roi des Juifs change ce qu'ils pensaient immuable en eux. Ce roi qui vient de naître ouvre l'espace des possibles pour eux. Cette étoile fait révélation à l'image de ce grand voyage qu'ils font pour se prosterner devant ce roi. C'est une nouvelle extraordinaire. Ils auraient pu avoir peur, s'inquiéter et s'enfermer chez eux. Au contraire, ils sortent de chez eux tellement cette nouvelle les bouleverse. Et la destination à donner à ce voyage pour eux ne fait aucun doute. Pour aller se prosterner devant les rois des Juifs, il faut aller à Jérusalem, bien sûr, capitale du royaume des Juifs. Ce n'est pas l'étoile, si vous l'avez bien entendu, qui les mène à Jérusalem, comme on le croit trop souvent. Ils ne suivent pas l'étoile entre chez eux et Jérusalem. L'étoile ne réapparaît qu'après leur passage chez Hérode pour amener les mages de Jérusalem à l'enfant. Écoutez, verset 9, « Ayant entendu le roi, ils partirent, les mages, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. » Cette réapparition de l'étoile provoque chez eux une grande joie. Retrouver sur leur chemin l'étoile qui les a fait sortir de chez eux est une confirmation qu'ils sont sur la bonne route. Quel encouragement ! Pour sûr, les mages ne sont pas les seuls à avoir vu l'étoile du roi. L'étoile est l'irruption de cette chose nouvelle dans nos vies qui nous pousse à sortir de chez soi pour aller vers Dieu. Comme avec les mages, cette étoile nous réjouit quand elle réapparaît pour nous guider au cours de notre voyage. Mais cette étoile n'a pas besoin d'être toujours visible. Elle nous précède quand nous sommes pris par le doute, l'hésitation du chemin à suivre, et elle nous conduit vers le roi. On peut maintenant se demander si l'étoile a été le seul guide des mages pour trouver le roi des Juifs qui vient de naître. On peut se poser cette question, si l'étoile a été le seul guide. N'ont-ils pas été aussi conduits par la prophétie de Michée ? Vous savez, cette prophétie que trouvent les principaux sacrificateurs et les scribes pour informer Hérode que le Christ doit naître à Bethléem. C'est vrai que Hérode envoie bien les mages à Bethléem. Mais à bien regarder le texte, cela ne veut pas dire pour autant que les mages entrent dans le scénario d'Hérode qui consiste à aller à Bethléem et finir ensuite le jeu de piste en toquant de porte en porte pour enfin trouver le roi des Juifs qui vient de naître. Écoutez verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Alors même qu'on pense que les mages ont maintenant suffisamment d'informations avec la prophétie pour trouver le roi des Juifs, l'étoile réapparaît dans le ciel pour les précéder et s'arrêter sur l'enfant. À aucun moment, les mages ne suivent le scénario d'Hérode et la prophétie. Le texte ne dit même pas qu'ils vont à Bethléem. L'étoile les précède et s'arrête sur l'enfant. C'est net, précis. Si l'auteur avait voulu nous dire que la prophétie les avait dirigés, l'étoile ne serait jamais réapparue. L'étoile réapparaît pour sortir les mages du scénario d'Hérode, pour qu'ils ne croient pas que la prophétie est une prédiction dont on pourrait se servir pour se diriger. L'étoile réapparaît à un moment où, pour eux, le chemin se brouille, où il se dédouble. Les mages suivent l'étoile. Ils ne suivent pas la prophétie de Michée. L'étoile les conduit à l'enfant. la prophétie de Michée ne les conduirait qu'à Bethléem. La prophétie, nous venons de le voir, de Michée est donc inopérante pour diriger les mages. Mais il y a autre chose dans cette prophétie, c'est qu'elle est aussi inopérante pour mettre en marche. Il est tout de même incroyable que les scribes soient capables de dire où doit naître le Christ d'après ce qu'ils lisent dans les prophéties et de rester entièrement statiques quand ils entendent que les mages quand ils entendent que ces mages vont venir à Jérusalem pour voir le roi des Juifs. Tout Jérusalem et Hérode s'émeuvent, mais aucun Juif ne réagit. Aucun Juif ne se met en mouvement pour accompagner les mages jusqu'à Bethléem. C'est quand même étonnant. Le seul à réagir est Hérode, mais pas pour aller voir, mais pour tuer. On voit bien que les prophéties ne servent à rien pour celui qui ne croit pas. Les prophéties ne servent pas non plus à diriger ceux qui cherchent le roi. Mais alors, à quoi servent donc les prophéties ? Vous avez remarqué que dans ce chapitre 2 de Matthieu, il est fait mention de nombreuses fois aux prophètes. La première fois, on vient de le voir, c'est quand Hérode consulte les scribes et les principaux sacrificateurs pour savoir où devait naître le Christ. Et les trois fois suivantes, c'est pour dire que la parole des prophètes s'accomplit. La réponse de ce chapitre à la question donc « À quoi servent les prophéties ?» est assez simple. Les prophéties sont là pour qu'on nous dise qu'elles se sont accomplies. Je dis bien qu'on nous dise, car il a fallu que quelqu'un nous dise qu'elles se sont accomplies, car sinon on n'aurait pas pu le deviner nous-mêmes. Prenons un exemple. Prenons l'exemple de la première prophétie qui se réalise. C'est entre les versets 13, je relis les versets 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait dit par le prophète, « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Si Joseph part en Égypte, c'est pour sauver l'enfant de la menace d'Hérode. C'est d'ailleurs ce que le Seigneur dit en songe à Joseph. La prophétie nous révèle qu'en fait, Joseph part avec l'enfant pour que le Seigneur puisse appeler son fils hors d'Égypte. C'est pas la même chose. Si Matthieu n'avait pas écrit dans son évangile que cette parole du prophète s'accomplissait, nous ne l'aurions pas deviné. Le lien n'a rien de très évident. Cette constatation m'inspire deux commentaires. Une prophétie, c'est une parole dite par quelqu'un à un moment donné dans l'histoire. L'auteur de cette parole est parfois le prophète lui-même, mais souvent le Seigneur. Quand la prophétie s'accomplit, c'est donc la parole de quelqu'un qui s'accomplit. Celui qui accomplit cette parole se met donc sous cette parole, qu'il le veuille ou non. En l'occurrence, dans cet exemple, c'est Joseph. Prenons cet exemple, donc. Joseph fuit en Égypte avec l'enfant. La prophétie « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte » peut se réaliser. Joseph témoigne alors qu'il n'est pas seul à décider de sa vie, de ce qui lui arrive, qu'il n'est pas le maître de son histoire. En fuyant en Égypte, Joseph se met sous la parole du Seigneur. Mais de même, quand Matthieu dit qu'une prophétie se réalise et que nous aujourd'hui, lecteurs, croyons ce qu'il dit, nous nous mettons aussi sous la parole d'un autre. C'est celle de Matthieu. Ce n'est pas nous qui décidons par nous-mêmes que telle ou telle parole s'accomplit. Nous sommes invités à croire que la parole du Seigneur s'est accomplie parce qu'un autre l'a dit. Ni Joseph, ni nous ne disposons de la parole prophétique. C'est elle qui dispose de nous. Pour Joseph, c'est évident. Pour nous lecteurs aussi, la parole prophétique a ceci de particulier: on ne peut pas en faire sa chose. Elle nous échappe et nous échappera toujours, car c'est la parole d'un autre. J'ai un deuxième commentaire. Ce deuxième commentaire consiste à dire que l'accomplissement des prophéties montre qu'une autre histoire est en train d'advenir. Prenons encore l'exemple de la prophétie « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». La première histoire, vous la connaissez, est celle de Joseph qui doit sauver l'enfant et donc fuir en Égypte pour y revenir. Cette histoire est l'histoire que nous connaissons tous. C'est notre histoire. L'autre histoire, c'est l'histoire de celui qui appelle son fils hors d'Égypte. C'est aussi l'histoire, dans la deuxième prophétie, de Rachel qui pleure ses enfants. On voit bien que pour celui qui croit, une autre histoire s'ouvre. Ce n'est pas d'autres événements, mais un autre regard, une autre interprétation sur ces mêmes événements. Cette deuxième histoire se tisse, se tricote, s'imbrique dans notre première histoire, et elle est différente. Pour cette nouvelle année qui commence, cela doit nous encourager. Notre histoire se dédouble d'une autre. C'est aussi notre histoire, mais c'est l'histoire soumise au Seigneur. Cela permet de changer de regard sur les événements de notre première histoire, surtout quand ces événements sont difficiles à vivre. L'accomplissement des prophéties nous fait découvrir que cette autre histoire existe pour nous. Et dans cette histoire, le Fils, le roi des Juifs, advient pour nous. On voit bien que pour Hérode, il n'y a pas de deuxième histoire. Il n'y a pas de deuxième histoire car il ne croit pas. La preuve est qu'il pense que le roi des Juifs, devant lequel les mages veulent se prosterner, est une menace pour son trône. Il pense que les mages sont venus voir un roi concurrent qui éjecterait sa famille du trône de Judée. Il n'a pas compris que les mages viennent voir, en fait, bien un roi, mais le roi du royaume des cieux. Et ce roi-là n'est pas en concurrence avec lui. La naissance de Jésus inaugure un nouveau royaume, une deuxième histoire pour nous. Les évangiles et le Nouveau Testament ne vont pas arrêter d'annoncer la venue de ce royaume-là. Au début du chapitre suivant, je vous l'annonce, c'est-à-dire le troisième chapitre du Nouveau Testament, Jean-Baptiste le crie dans le désert en disant « Convertissez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. » Si le royaume des cieux s'est approché, c'est parce que son roi est à notre porte, prêt à régner sur notre deuxième histoire. Mes chers amis, ouvrons-lui la porte comme les mages l'ont fait en leur temps. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dans l'espérance de la venue du royaume des cieux pour nos vies, je souhaite à chacun et à chacune une très bonne année 2020. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci de nous avoir laissé le témoignage de ces mages qui, en voyant ton étoile dans le ciel, ont entrepris ce long voyage jusqu'à toi. Seigneur, ils n'ont pas eu peur de se laisser guider par ton étoile, nouveauté dans leur ciel qu'ils croyaient immuable et sans changement. Donne-nous de prendre exemple sur eux. Donne-nous de ne pas craindre les signes que tu nous envoies aux endroits mêmes où nous croyons que rien ne peut changer. Donne-nous d'accueillir ces signes, ces étoiles, et surtout, donne-nous de les suivre. Seigneur, merci de nous avoir donné les prophéties. Pas pour remplacer les signes, mais pour nous montrer qu'en nous faisant diriger par toi, nous entrons dans ton royaume, dans ce royaume où tu es roi. Notre vie est souvent difficile, éprouvante. Donne-nous la force de ne pas tomber dans la tentation de croire que tu t'es éloigné de nous. Ta survie a coûté la vie à de nombreux enfants. Rachel en pleure encore. Nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive, mais donne-nous l'assurance qu'au-delà de notre première histoire, une deuxième histoire se construit dans ton royaume pour nous. Seigneur, merci de frapper inlassablement à notre porte et de manifester ainsi ton désir ardent de venir en nous. Donne-nous de faire la place à l'advenue de ton royaume. Dans le nom de Christ. Amen.